Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Trémolo, bonjour.
Salut Gonzalo.
Comment vas-tu ?
Très bien, très heureux.
Merci. De qui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Écoute, j'ai amené un petit livre qui s'appelle Anthropologie de Éric Chauvier et c'est édité aux éditions Alia, qui est une maison d'édition qui fait des petits livres à 6,10€ le plus souvent et en qui j'ai une totale confiance et j'y vais souvent les yeux fermés.
Alors Alia fait aussi des très gros livres,
oui,
notamment sur la musique,
oui,
que
oui,
l'on
oui.
peut conseiller à tous. Mmh.
Alors, donc c'est un livre qui s'appelle Anthropologie, c'est l'histoire, c'est une sorte d'enquête de quelqu'un qui a croisé le regard de quelqu'un, d'une femme. Il mène une enquête pour savoir un petit peu ce qui lui est arrivé. Il essaye de comprendre un petit peu pourquoi il a ressenti ce qu'il a ressenti en regardant cette femme. Pourquoi ça l'intrigue ? Parce que c'est une femme qui fait la manche à un feu rouge. Alors je vais te lire des petites bribes de ce livre qu'il faut lire dans son ensemble parce qu'évidemment c'est toute une enquête donc il y a plusieurs étapes. Mais voilà, je vais te lire l'entrée en matière. J'ignore si elle est encore en vie, j'ignore comment elle a disparu. N'ayant pas trouvé de domaine tangible à son sujet, pas de registre, pas d'archives, pas même de source orale digne de foi, je n'ai abouti qu'à des suppositions. Je n'ai pas trouvé de cause physique à sa disparition, tel un réseau mafieux venu de l'Est, l'un de ceux qui ont occupé un temps les médias de ce pays. J'ai d'abord pensé que ceux qui la croisaient au quotidien étaient responsables, ceux qui ne la voyaient pas, ceux qui en parlaient sans la voir, ceux qui la voyaient sans en parler. Mais cette piste était inconséquente. Parce qu'elle recouvrait une hypothèse que j'ai mis du temps à reconnaître et à accepter. La disparition de cette fille a été le fait de circonstances sur lesquelles j'ai pesé d'une façon regrettable. Celles-ci, une fois avouées, m'ont obligé à ne plus la chercher, mais à trouver les façons de la faire réapparaître, si bien que finalement l'objet de l'enquête s'est confondu avec l'enquête elle-même. Donc on pourrait dire que ce livre est une façon de la faire réapparaître. Il commence comme ça, le livre. Là, je viens de te lire une sorte d'introduction, et après la première partie, il y en a trois. Le 2 juillet 2003, elle se rend de voiture en voiture pour collecter un peu d'argent. Elle économise les sourires et les salutations qu'elle doit garder pour les conducteurs des premiers rangs, ou pour ceux dont les véhicules sont d'apparence plus luxueuses. C'est une stratégie couramment employée par ceux qui ont à occuper à une fin lucrative et de façon non officielle un bout de trottoir de la ville. Elle ne doit pas miser uniquement sur le caractère ponctuel de sa représentation, mais aussi sur l'impression de réalité suscitée dans l'esprit de ceux qui pourraient apercevoir la scène. Cette fille se voit régulièrement contrainte de ravaler son orgueil lorsque la personne à qui elle s'adresse ne la regarde pas, affichant peut-être de l'indifférence ou du mépris, tandis que d'autres, situés à la périphérie de la scène et l'ayant ou non aperçue, font déjà partie de la représentation à venir. L'essentiel est qu'elles sachent à quoi s'en tenir d'un seul coup d'œil pour économiser du temps et des efforts. Sans forcer leur attention, les automobilistes doivent pouvoir identifier son occupation. C'est une fille, probablement d'Europe de l'Est, qui fait la manche. Je m'attarde sur son visage pour tromper l'ennui de l'attente. J'ai l'habitude de me livrer à ce petit jeu consistant à soutenir aussi longtemps que possible le regard de certaines personnes dans les transports en commun ou, comme ici, dans mon automobile. mais aussitôt gagné par une sorte de honte, sans parvenir à préciser ce sentiment, je réalise la vacuité de ce jeu. Le rôle que tient cette fille, les obligations de discrétion à laquelle l'astreint sa représentation, la pousse à ne pas tenter, à ne rien tenter contre moi, ce qui annule le principe même du jeu et la vague perspective d'un duel. Réalisant donc que mon petit jeu est inopérant, je m'apprête à reprendre le flux d'automobile quand, spontanément, je lance un coup d'œil vers cette fille. L'ambivalence de son regard me foudroie. Il est à la fois opaque et lumineux. Il semble verrouillé et infiniment léger. Dans sa lumière, je crois reconnaître d'autres parties de ma vie. C'est un visage à la fois effrayé, juvénile et dur, mais identifiable, revenu de l'adolescence, de vacances lointaines, familières. Je nomme cela une impression de familiarité rompue. C'est un visage retrouvé maintenant dans les traits de cette fille venue du cœur de l'Europe, quelques milliers de kilomètres parcourus je ne sais comment, pour s'adonner à la mendicité, ici, au carrefour des quatre vents, dans un contexte qui m'apparaît soudain dans toute sa violence, avivant des images d'abandon et de retrouvailles, de tumulte et d'apaisement, l'intensité d'une vie rare et la possibilité de la mort elle-même.
A trick that people use to make you think they are smart is confidence when actually they're lost in the dark. Only someone with the mind of a child says they'll grow up. Cause serving down the avalanche, your life will show up. It's nice to be loved, it can never happen too late. I wanna share my food, but you have stolen my plate. Hey now, go your way now. You torture little girl. Show
Voilà, il l'aperçoit à un feu rouge et il se demande d'où lui vient cette impression de familiarité rompue, comme il le dit, qui le foudroie. Et donc il dit un peu plus loin, l'impression de familiarité rompue ne se rapporte pas seulement à une reconnaissance ponctuelle selon des caractéristiques identifiant telle ou telle personne, elle est aussi une découverte abstraite, référée à un genre plutôt qu'à des singularités biographiques. L'éclat de ce regard constitue le fondement premier de ce que l'on pourrait nommer, en libérant ce mot de tout académisme, pour ne garder que sa valeur expérimentale, sa valeur d'épreuve, épreuve du générique dans l'éclat d'une aventure singulière, dans la douleur de se trouver déracinée devant cette fille, elle-même déracinée au plus haut point, puis dans la dislocation d'un lien coutumier au monde, puis dans la dispersion d'un langage devenu injustifié, puis dans la dissolution d'une norme qui valait jusqu'alors au seul motif d'exister, puis enfin et surtout dans le malaise d'être là, une anthropologie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire venir des gens dans sa voiture, il va les faire passer au même carrefour que lui, il va essayer de faire croire à ces gens qu'il aperçoit la fille pour la première fois, et il essaie de voir leur réaction. Il essaie de leur dire « Tiens, regarde, la fille là-bas, ça doit être dur ce qu'elle fait. » Pour voir un peu comment les gens réagissent. Et donc, la première partie, c'est ça. Il fait venir des gens qui réagissent plus ou moins verbalement, plus ou moins explicitement. Et il note scrupuleusement ces réactions et il les analyse. Donc voilà, donc il y a un certain Maurice à un moment, il y en a plusieurs, il les fait venir. Et il y a aussi un sociologue, car il y a tout un aspect sociologique dans ce livre. Il essaye de comprendre comment des sociologues peuvent réagir à cette vision d'une femme faisant la manche à un feu rouge. Alors notamment, il y a le sociologue qui arrive à faire monter dans sa voiture, qui s'arrange pour pouvoir passer au feu rouge, etc. Au moment où elle est là, ce sociologue a une théorie sur notre façon de réagir par rapport à ces gens.
Et les voilà partis vers d'autres aventures, vers les flèches où les fleurs flashent avec la folie. Et moi je reste assis, les poumons dans l'assure, à filer mes temps morts à la mélancolie. Soleil, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé? Pareil que mon sorcier m'attend à Chihuahua ou bien dans un clan des brumeux de Singapour. Mais je traîne des PMU avec ma gueule de bois, en rêvant que la barmaid viendra me causer d'amour. Et je tombe sur le chin-tong dans cette soute à proxo, qui me dit viens prendre un verre, tu m'as l'air fatigué. Laisse tomber ta cutie, deviens ton mécano. C'est depuis le début du monde que l'homme s'est déchiré.
Alors, je vais te lire ce moment-là où il rencontre, où il emmène ce sociologue. Je cherche aujourd'hui à savoir si le sociologue spontané et le sociologue professionnel partagent certaines dispositions au moment de commenter la situation de X. Il l'appelle X. Trouver un sociologue authentique est envisageable, mais le convaincre de faire un tour dans ma voiture s'avère un peu plus compliqué. Maurice Jean-Jean me semble la personne idéale pour tenter l'expérience. Il occupe un poste dans un laboratoire de recherche en sociologie. Je ne peux ajouter davantage de détails au risque de dévoiler son identité, ce qui nuirait au sérieux de son statut, que son statut lui incombe d'adopter. Formé à l'enseignement de la sociologie, puis passé par celui de la philosophie, Maurice Jean-Jean prétend aujourd'hui faire de la sociologie incarnée, ce qui supposerait l'existence d'une sociologie désincarnée, qui illustrerait selon lui une sociologie exclusivement théoricienne. Profitant de son passage dans la région, j'invite Maurice Jean-Jean à déjeuner à mon domicile qui se trouve en dehors de la ville, dans la banlieue ouest. Après avoir récupéré Maurice à la gare, sachant qu'il ne connaît pas les axes routiers de la ville, je peux en toute discrétion effectuer un détour par le carrefour des quatre vents. Nous sommes sur le point d'atteindre le lieu d'expérimentation. Nous parlons de l'œuvre de Pierre Bourdieu, je montre une baisse d'intérêt pour ce thème, il me faut clore la conversation un peu avant de croiser X, pour ne pas laisser le temps à Maurice, que je sais bavard, de passer à un autre sujet, ce qui rendrait plus difficile sa participation à mon expérience. Le stratagème fonctionne. La synchronisation des séquences est optimale, X se dirige vers nous, elle arrive à notre hauteur. micro branché discrètement camouflé dans ma manche. Moi, prenant un air détaché. Tu as vu cette fille? J'imagine que c'est difficile pour elle ce qu'elle fait. Maurice Jean-Jean. Oui, de toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, réellement intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Maurice Jean-Jean, l'air entendu. C'est-à-dire que nous y trouvons notre compte. C'est notre satisfaction. Moi, c'est ton point de vue de sociologue? Maurice Jean-Jean, je ne sais pas. L'air réellement habité. Mon point de vue d'homme de raison, en tout cas. Comprends bien que l'habileté de cette fille consiste à nous renvoyer notre image en déformé, ce que nous serions ailleurs, ce que nous aurions pu être. Mais surtout, c'est là le nœud de la réflexion, ce que nous ne serons jamais. Nous avons besoin de visualiser ces possibles, de voir les autres les incarner, parce que leur posture agit sur nous comme un avertissement. Et cette déformation est en quelque sorte nécessaire au maintien de l'ordre social. Elle agit comme une instance régulatrice. Comme cette fille, du doigt, il montre X qui vient vers nous en effectuant sa mimique. Maurice balaye son regard d'un revers de la main. Plutôt jolie d'ailleurs, qu'elle le veuille ou non, elle participe au bon fonctionnement de la communauté. Elle en est un rouage essentiel même, parce qu'à sa vue, nous nous libérons d'une énergie. Ce qui n'est pas loin de la part maudite évoquée par Bataille. Nos actes ne sont possibles que parce que nous trouvons les moyens de libérer une énergie, une imagination qui rendra acceptable notre existence.
In your mind, saying everything's great, everything's fine. Hey, hey, girl. Hey, hey, girl. Hey, hey, girl. You're all alone, without a friend to call your own. This ghost in your mind, saying everything's great, everything's fine. Hey, hey, girl. Hey, hey, girl.
Alors pourquoi ce livre? Ce livre est parti de notes que j'ai prises sur ma périurbanité. Donc la banlieue de Bordeaux, qui est une banlieue qu'on appelle molle, qu'on ne sait même pas du tout comment qualifier, à vrai dire, qui n'est pas la banlieue difficile, qui n'est pas la banlieue riche, qui est une sorte d'entre-deux, qui concerne un peu toutes les villes de France. Et comme je suis anthropologue, et que mon métier c'est de prendre des notes, j'ai commencé à glaner des informations sur cette zone périurbaine, avec au départ, ce qui est un peu le leitmotiv de ma démarche, l'idée d'un malaise, vécu à titre personnel, d'évoluer dans ce type de zone-là. Malaise qui rejoignait un peu l'idée que finalement tout ça était très standardisé, qu'on avait un peu perdu une sorte d'authenticité vis-à-vis de la nature qui se rappelait à nous de façon très, très fragmentaire au sein de la vie périurbaine. Un peu cette vie mutilée hein, qu'évoque Théodore Adorno et que je vivais à titre personnel. Et puis un jour est arrivé l'article de Télérama, février 2010, et l'article partait maintenant, je peux le dire, d'une idée qui me semblait intéressante, qui était d'essayer de qualifier ces zones-là. Mais avec un jugement de valeur qui a aiguisé ma colère, qui était halte à la France moche. Le problème n'est pas l'accusation de mocheté, au fond, mais véritablement tous les effets d'exclusion qu'entraîne ce type de jugement, qui est un jugement de classe, premièrement, et qui ensuite comporte une dimension, on pourrait dire, épistémologique, c'est-à-dire, en qualifiant cette zone-là de moche, qu'est-ce que, finalement, je me prive d'explorer simplement avec un critère d'ordre esthétique. Et tout est parti de là. Et à partir de là, ces notes que j'avais glanées de ci, de là, me sont parues beaucoup plus cohérentes. Et j'ai trouvé avec cet article une raison de les mettre en scène, on pourrait dire. Il y a toujours une mise en texte qui est pour moi une mise en scène. Je ne fais pas de l'anthropologie à la façon de Mauss, comme on disait, pour faire du naturalisme, quelque chose de très descriptif. Moi, j'ai besoin de mettre en scène ce que je fais, mes enquêtes. Et donc là, ça m'a donné toute la mise en scène de mon enquête. C'est-à-dire que j'ai trouvé un motif de colère. Mon malaise et ensuite a été approfondi, je dirais, dynamité et dynamisé par cette colère.
In the street below, someone I used to know. There's a frightened little girl outside my window, and she's looking for a world, one that she doesn't know. A frightened little girl looks like she's on the go, but how is the world to know?
Et voici comment, un petit peu plus loin, l'auteur analyse ses propos de Maurice Jean-Jean. Quant à la théorie proprement dite, elle est séduisante à bien des égards. Les individus ne supporteraient la société que dans la mesure où celle-ci leur accorde des formes d'exutoire, ce qu'incarne ponctuellement l'image de X, ce spectacle routinier. Cette thèse est facile à utiliser puisque binaire et universelle, quoique capable de rendre compte de certaines finesses propres aux situations référencées. Bataille est l'idée de la part maudite. Elle est un peu provocante, un peu romantique aussi. Voilà, donc il fait venir les gens, il analyse leurs réactions et il essaye de voir si leurs réactions, leurs commentaires sont pertinents. La deuxième partie du livre, c'est plus un moment où il arrête de faire venir des gens et où il décide lui-même d'aller à la recherche de cette femme puisqu'elle a disparu. Un jour, elle n'est plus là. Et la troisième partie, un moment où il se met à réagir à quelqu'un qui lui dit « Mais finalement, peut-être que tu as tout simplement été amoureux d'elle. T'es peut-être juste tombé amoureux. » Donc il y a tout un aspect analyse sociologique, un aspect recherche concrète avec des associations qui s'occupent de Rome. Et il essaie d'éclairer un petit peu ce moment où les gens sont pris en charge par des associations pour les aider, etc. Et une partie où il se remet en question et il se dit « Mais finalement, qu'est-ce que j'ai vécu, moi, par rapport à cette femme qui m'a peut-être séduite ?» Voilà, donc, c'est ça, à grands traits, le propos du livre. Et ce qui est passionnant, c'est cette introspection permanente, cette faculté qu'il a de vouloir absolument analyser avec finesse et ne pas se laisser tromper par tout ce qui peut tromper le regard de quelqu'un qui voit une mendiante à un feu rouge, c'est-à-dire tout ce qu'il a en lui de représentation de ce genre de femme, de ce genre de là où elle vient, etc. Ne pas se laisser tromper non plus par le langage que l'on plaque trop rapidement sur ces situations. Même le langage d'un sociologue, même le langage de quelqu'un qui lui dit « t'es simplement amoureux », il essaie de déconstruire tout ça et ça fait un tout petit livre qui n'est pas très long mais qui est passionnant pour ça.
Jamais il ne parle à cette femme ?
Non. Non, on peut le dire parce que la quatrième de couverture, c'est la dernière phrase du livre. L'enquête est vouée à continuer parce qu'il ne l'a pas, abordée. Et il ne l'a pas connu, il ne l'a pas rencontré.
Que peux-tu nous dire sur l'auteur ?
Pas grand-chose. Je ne connais pas grand-chose sur cet auteur. Écoute, je crois que c'est son premier livre. Mais bon, ça date de 2006, donc il en a peut-être fait depuis.
Et tu as aimé le style également ?
Le style, oui, il découle de cette... Moi, tu sais, j'aime bien les livres qui sont un peu introspectifs et celui-là l'est complètement. Et le style, c'est pas un texte littéraire dans le sens où il y a une recherche sur le style. C'est simplement une recherche sur la précision du propos et précision de l'analyse. On peut le comparer. D'ailleurs, l'auteur fait référence dans l'extrait que je t'ai lu. Il parle de bataille, mais moi, il en parle aussi dans le livre. Il fait référence à Nadja de Breton, qui est un livre aussi sur une rencontre avec une femme mystérieuse. Et donc voilà, la démarche est celle qui m'a aussi fasciné chez certains surréalistes, quand ils ont essayé de décrypter comme ça ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un.
Trémolo, merci.
Merci à toi.
Au revoir.
Il y avait donc Brassin, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère. Thank you.
Pour n'être pas les